Il y a plus de 10 ans, son art français de la guerre mettait KO le jury du prix Goncourt. Pour Alexis Génie, ancien professeur agrégé en biologie, ce premier roman n'était pas juste un succès, c'était le résultat d'une expérimentation enfin aboutie qui mettait fin à une longue liste de refus d'éditeurs. Après plusieurs livres, publiés aux éditions Gallimard comme Féroce d'infirme ou La beauté dure toujours, c'est son amour pour la culture scientifique qu'il souhaite aujourd'hui partager. Écrire sur les armes, sur les espèces disparues, est un moyen pour lui de faire réfléchir aux fragilités de notre monde. Et il le montre dans son ouvrage « Cette planète n'est pas très sûre, histoire des si grandes extinctions ». En cette rentrée, il publie un nouveau récit, « Le passeport de Monsieur Nansen », consacré à un atypique prix Nobel de la paix, le Norvégien Fridtjof Nansen, qui a été diplomate pour la Société des Nations au sortir de la Première Guerre mondiale, mais aussi humanitaire, explorateur polaire et scientifique. On le retrouve pour la saison 2 du « Qu'est-ce qu'il lit ?» du Monde des livres. Bonjour Alexis Génie.
Bonjour.
Merci de participer à ce podcast. Nous sommes au Salon du Livre du Mans, faites lire, et nous allons faire surgir ensemble quelques forts et émouvants souvenirs de lecture. Est-ce que vous avez un livre d'enfance que vous avez déjà relu ?
Je crois pas, en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. J'étais le gamin qui lisait. Mes parents disaient que je broutais. Voilà. Mais... Voilà, c'est des livres que j'ai perdus en plus. Ils ont disparu dans des déménagements, le destin de mes parents. Voilà, je ne sais plus où ils sont et je ne les ai donc jamais relus.
Pourquoi disait-il que vous broutiez des livres ?
Bah parce qu'il me voyait la tête penchée sur la page et puis, vous savez, comme une vache qui broute dans un pré, elle arrache l'herbe comme ça en tournant la tête, puis après elle avance un peu, hop, 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 c'est vraiment le passage de ligne en ligne. Et il y avait une sorte de, comme ça, de rumination de la lecture. Ah, on n'avait pas la télé par choix de mode de vie de mes parents. Et donc, j'avais des livres, j'avais beaucoup de livres. Ils me fournissaient en livres et je lisais beaucoup. Ça a été la grande aventure de ma vie que de lire.
Vous les choisissiez comment ?
Beaucoup de hasard. Et puis, dans des bibliothèques aussi, la bibliothèque du collège de mon lycée, il y avait des vieux trucs totalement poussiéreux. Et il y a des choses que j'ai lues, puis je me rends compte que peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui les a lues, parce que c'est vraiment des trucs anciens, mais je faisais feu de tout bois. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main.
Encore maintenant.
Alors maintenant, bon, j'ai plus de... Enfin, je choisis plus. Donc, il faut que je lise des choses qui me nourrissent un peu quand même. Voilà, c'est... Mais j'ai encore cette envie de lire un peu au hasard, c'est-à-dire de traîner dans les bibliothèques, puis de regarder dans les rayons, puis de choper un truc comme ça dont le titre me plaît.
C'est le titre, pas forcément la quatrième de couverture.
Ouais, enfin, la quatrième de couverture, Non, c'est plutôt le titre. Puis aussi, après, je commence à regarder la première page et on voit sur une première page le rapport à la langue qu'a l'auteur. Et là, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est une écriture transparente qui n'a pas de consistance ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a une consistance littéraire? Voilà. Et ça se sent. Mais c'est comme si on écoute un disque. Hein. Il suffit de 10 secondes pour savoir si ça nous convient. Donc, un livre, c'est pareil. Il y a quelque chose dans la musique de la langue qui me touche ou pas. Et quand ça me touche, je lis, j'essaye. Puis voilà, puis des fois c'est pas bien, puis des fois c'est super bien.
Avez-vous un livre pour aimer lire ?
Alors c'est drôle parce que j'en ai parlé hier soir au bar avec des collègues et sur ce livre qui fait aimer lire. Je citais l'Odyssée d'Homère. C'est quelque chose que j'ai lu quand j'étais gamin. Mes parents, ils m'ont offert une version pour enfants de l'Odyssée. Je l'ai lu plein de fois. Et après, j'ai lu la version complète. Et je l'ai relu plusieurs fois. Et je le relirai encore. Parce que c'est un livre complet. Il y a tout. Il y a le monde, il y a l'aventure, il y a l'amour, il y a des monstres, il y a des... Il y a des tas de meurtres horribles, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Les Grecs apprenaient la vie en lisant l'Odyssée. Moi, pareil.
Vous aimeriez en écrire la suite ?
Bon, il n'y a pas de suite parce que, justement, le livre est clos. Non, le livre dont j'aimerais écrire la suite, c'est Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Ce livre inachevé qui n'est pas bien fini. Et ça donne envie de le finir, parce que là aussi, c'est un livre où il y a tout, parce que Bouvard et Pécuchet, c'est deux cinglés qui essaient de comprendre la vie et le monde, et puis ils font ça tellement bêtement que ça se termine en catastrophe, et c'est un livre qui pourrait continuer plein de fois. On pourrait faire un Bouvard et Pécuchet contemporain, ça serait très drôle.
Vous avez choisi un passage qui est vers la fin ou pas?
Non, c'est le début. C'est quand Bouvard et Pécuchet savent pas encore où ils veulent s'installer. Voilà. Donc, ils hésitent un peu. Voici ce texte. Pour savoir où s'établir, ils passèrent en revue toutes les provinces. Le nord était fertile, mais trop froid. Le midi, enchanteur par son climat, mais incommode, vu les moustiques. Et le centre, bah franchement, n'avait rien de curieux. La Bretagne leur aurait convenu, sans l'esprit cagot des habitants. Quant aux régions de l'Est, à cause du patois germanique, il n'y fallait pas songer. Mais il y avait d'autres pays. Qu'était-ce, par exemple, que le Forêt, le Bugey, le Roumois? Les cartes de géographie n'en disaient rien. Du reste, que leur maison fût dans tel endroit ou dans tel autre, bah, l'important, c'est qu'ils en auraient une. Alors j'aime beaucoup la perfection verbale de Flaubert, et puis il y a le côté un peu encyclopédique foutraque de ça. Et puis aussi, c'est la seule occurrence littéraire que je connaisse du Bugey, qui est la région où j'ai grandi. C'est un endroit que personne ne sait où c'est, hein, c'est dans l'Ain, mais personne ne connaît. Et là, dans Flaubert, je l'ai trouvé.
Vous avez fait cette recherche explicitement?
Non, parce que j'avais... c'est par hasard, en lisant, je vois ce mot qui m'est familier, m'a sauté aux yeux. Mais voilà, c'est quand j'ai lu Bouvard et Pécuchet, il y a quelques années.
Alors là, ça parle de géographie, notamment. Ouais. Quelle est votre géographie intime de la lecture? C'est-à-dire votre endroit préféré pour lire?
Le train. Alors heureusement, du fait de mon métier, je circule beaucoup. En plus, maintenant que j'habite dans le sud-ouest, je circule encore plus parce que c'est encore plus loin là où je vais. Je fais des voyages en train de plusieurs heures. Et là, je lis très bien parce que je suis calé dans mon fauteuil et je peux pas bouger. Quand je lis chez moi, au bout d'un moment, je m'agite. Et quand je suis dans le train, je m'agite pas. Donc je lis, je continue ça. Donc il y a beaucoup de livres que je lis dans le train et j'ai un gros sac lourd parce qu'il y a des livres dedans.
Dans vos livres, lorsque vous écrivez, dans quelle mesure vous tenez à faire de vos personnages des lecteurs par des occurrences?
Oui, c'est vrai. Alors, j'ai jamais pensé. Je sais pas si j'ai des personnages qui sont... Ah si, alors là, j'en ai un. Dans La Française de la guerre, il y a un lecteur de l'Odyssée, justement, dont je parlais, un militaire. Et j'avais inventé que ce militaire, il avait l'Odyssée dans sa malle de militaire, et que quand il y avait des alertes, il était au Tonkin, dans ses fortins, et ben, sous les bombardements, il lisait des morceaux de l'Odyssée. Bon, je pensais que j'avais inventé. Et un jour, à Toulon, salon du livre, il y a un type qui va acheter mon bouquin. Et il me dit, ouais, ben, enfin, moi, je suis militaire, là, je pars en Afghanistan, et donc, j'aurais jamais des bouquins, parce que, bon, ben, quand on se fait attaquer la nuit, comme ça, ben, on peut pas dormir, alors je lis. Et donc, j'avais inventé un type réel, et c'est arrivé plusieurs fois dans La Française de la guerre, où des choses où je pensais que j'avais un peu exagéré dans l'invention. Eh ben non, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils faisaient la même chose.
L'Odyssée d'Homère, ça pourrait aussi figurer dans ces chefs-d'œuvre que certains lecteurs vont délaisser parce que trop long, parce que différentes raisons.
Oui.
Est-ce que vous en avez un?
Il y a un mystère. C'est alors, je suis pas un bon lecteur de poésie. J'ai lu plutôt du roman, mais je pense à René Char, ce poète que tout le monde adore et que j'arrive pas à lire, que j'arrive même pas à comprendre. Parce que soit c'est incompréhensible pour moi, je comprends pas ce qu'il dit. Et quand je comprends, je trouve ça un peu niais. Et voilà, alors, je pense que je me trompe. Parce que, vu le nombre de gens qui aiment ça, d'ailleurs, quelque chose. Donc, il y a quelque chose auquel j'arrive pas à accéder. C'est bizarre, c'est un mystère, mais voilà, peut-être qu'un jour, j'y arriverai.
On vous en offre de la poésie, parfois?
Jamais.
Vous en offrez pas, j'imagine. Vous offrez quel type de livre?
Alors, plutôt des romans, puis des romans que j'aime bien, puis qui sont peut-être pas connus. Alors, je pense, il y a une autrice que j'ai beaucoup offert, c'est Emmanuelle Bayamaktam. Je suis un fan absolu de tout ce qu'elle écrit. Et comme plein de gens la connaissent pas, j'offre, on va dire, regarde, lis ça, c'est vachement bien. Et voilà, je suis son, comment dire, son diffuseur autour de moi.
Elle le sait?
Elle sait que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, mais elle sait pas que j'en offre. Alors peut-être qu'elle écoutera ceci et qu'elle saura que je la diffuse.
Et à l'inverse, est-ce que il y a une œuvre que vous jugez insuffisamment connue?
Alors, je suis une groupie totale de Charles-Albert Singria. C'est un auteur suisse, roman, qui écrivait entre les années 30 et les années 50. Et qui me plonge dans des plaisirs intenses, voilà, de littéraires. Parce que c'est un truc qui on sait pas trop de quoi ça parle, ça raconte des trucs et des machins, mais avec une beauté de langue et avec un humour. Et voilà, je suis extrêmement attaché à ce qu'écrit cet homme-là. Et pour moi, ça a été longtemps une sorte d'idéal littéraire.
Vous nous plantez le décor de l'extrait que vous
voilà, avez dit. Il y a un petit texte. C'est extrait de Floride Zelvette. Un drôle de nom. Il y a quelques villes sur la map monde qui incarnent par excellence le mystère. Mais on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et où on dit que leur attrait est différent, qu'on se dit dans la curiosité ou un site. Marseille, par exemple, ou Saïgon. Et peut-être bien aussi Lausanne. Ville terriblement mystérieuse quand on comprend qu'on ne sait pas à qui elle appartient. À soi-même, évidemment, mais ce soi-même est multiple et despotique occultement, et cela même est moins conscient qu'on ne le suppose dans ses étages. À l'œil nu, il n'y paraît rien. Comme à Marseille ou à Saïgon, il y a, si on le désire, de petites grandes villas où, à condition de ne se mêler de rien, on peut vivre parfaitement tranquille. On peut y avoir des perruches bleues, des allées de tamaris, élever ses fils dans la soie et les envoyer chez les pères. Jamais vous ni eux ne vous apercevrez de rien. Pourtant, c'est inconcevable. Ni de la légèreté à laquelle s'opère une disparition, la vôtre n'est pas nécessaire, ni ce que c'est, ni comment cela s'étage, ni comment par miracle cela tient et sur quelle base. Surtout cela, on se demande où est le point de départ, on pourrait se le demander longtemps.
Encore un passage où il y a une description de lieux.
J'adore les lieux.
Est-ce que vous avez en tête la plus admirable description de personnages dans la littérature ?
Ah, de personnages ! Oui, après les personnages, ils se décrivent par l'action. Ils se décrivent par les dialogues, ils se décrivent par les scènes, par ce qu'ils font. Et c'est vrai que moi, quand je crée un personnage, il se crée petit à petit de lui-même par les scènes et par les actions qu'il mène. Et au bout d'un moment, au bout de 100 pages, petit à petit, il apparaît. Les paysages, on peut les décrire directement en les voyant. Donc voilà, c'est pas la même chose. Il faut, à mon avis, il faut des dizaines et centaines de pages pour décrire un personnage.
Est-ce qu'il y a un livre dont vous voudriez être le héros ?
C'est dans les BD de Christin et Mézières, les aventures de Valérian. J'aurais adoré être Laureline, la compagne de Valérian, que je lisais, c'est une BD que je lisais passionnément adolescente, et cette personnage-là a beaucoup compté pour ma constitution de la femme idéale dans ma tête, et j'aurais adoré être cette héroïne-là.
Quelles en sont les caractéristiques ?
Ah, elle est, c'est une femme énergique, forte, intelligente, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, avec de l'humour. Bon, qu'elle soit extrêmement jolie, rajoute aussi à la chose.
Est-ce que vous avez un livre récent que vous avez envie de lire ?
Alors beaucoup, parce que je suis un goinfre. Mais j'en ai un qui m'attend à la maison, que j'ai envie de lire, de Laurine Roux, Sur l'épaule des géants. C'est un bouquin qui est publié par les éditions du Sonore, et où il y a des gravures, des très très belles gravures, genre gravures sur bois, d'un noir très profond, des très 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 belles images. Et moi, c'est l'idée d'un livre illustré me plaît beaucoup, où il y a une sorte d'aller-retour entre le texte et le dessin. Donc voilà, donc ça, rentrée maison, je commence ce livre-là.
Et vous en avez ça en tête pour vos propres ouvrages ?
Ah, j'aimerais bien. Alors après, faut trouver un illustrateur, faut être d'accord, faut que l'éditeur soit d'accord, etc. Enfin bon, mais bon, un jour j'y arriverai.
Ça apporte quoi la lecture pour vous ?
Ça apporte quoi ? Ça apporte un élargissement du monde, c'est-à-dire que, vous savez, cette idée de réalité augmentée dont on parle sur les métavers, choses comme ça. Ben non, mais ça existe déjà, ça s'appelle un livre. Et puis il y a aussi, dans le livre, il y a le langage en action. Et ça me plaît énormément. C'est la littérature, c'est un fait de langage. Ça fait bouger la langue, ça fait bouger le langage, ça fait bon, et ça nous permet d'être au monde.
Si vous deviez choisir un livre dont vous changeriez la fin.
Alors ça, je sais pas, mais ça me rappelle une histoire où j'ai écrit un livre qui raconte la conquête du Mexique par les conquistadors, où tout se termine dans le sang, dans l'incendie de Mexico, etc. Bon, et un ami le lisait, il est venu me voir à la fin et dit « Mais quand même, mais t'exagères, t'aurais quand même pu faire qu'à la fin, ce soit les Indiens qui gagnent. » Peut-être finalement j'aurais pu faire ça.
Inverser le rapport de domination.
Voilà, et finalement qu'à la fin, c'est les Aztèques qui gagnent sur les Espagnols. Bon, quoique les Aztèques, c'était quand même des violents aussi, donc je sais pas si on aurait gagné au change.
Est-ce que vous y avez réfléchi ? Est-ce que ça a été une question que vous posiez pendant l'écriture ?
Ah, pas du tout. Moi, je pensais raconter justement cette épopée tragique qui se termine bon mal, mais je pensais pas faire du... Bon, il y a un écrivain, Laurent Binet, qui a inventé ça, qui a inversé la conquête et donc l'Europe conquise par les Incas. Voilà. Bon, c'est une bonne idée. Mais moi, j'étais dans mon truc avec un décor historique et finalement, c'est un roman... vraiment roman romanesque, qui est sur un arrière-plan historique réel.
Une question plus personnelle, y a-t-il un livre dont la lecture a enlevé une partie de vous-même ?
Enlevé une partie de moi-même ? Quelle horreur ! Moi, j'ai l'impression que tous les livres m'augmentent, que tous les livres, comme je disais, c'est une réalité augmentée, et chacun m'apporte quelque chose, c'est une brique de plus dans la construction.
Et y a-t-il un livre qui vous a fait oublier votre arrêt de train ?
Jamais ! Parce que je suis super angoissé des horaires.
Vous avez des horloges dans le ventre.
J'ai des horloges dans le ventre. C'est un peu mes origines suisses. Voilà, ça fait tic-tac tout le temps. À la limite, peut-être. Alors, je pense à un auteur de romans policiers que j'adore, qui s'appelle Hervé Lecor. Peut-être qu'il pourrait me faire rater quelque chose. Parce qu'il m'emporte. Mais bon, il y a quand même mon horloge dans le ventre qui continue à tic-taquer.
Merci à Laetitia Jenny.
Merci.
Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le passeport de Monsieur Nansen, publié aux éditions Paulsen. Retrouvez tous les épisodes du Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et les plateformes de streaming. À bientôt et surtout bonne lecture.